Donc bonsoir, c'est notre deuxième soirée ASPES de l'année 2012. Ce soir, on va développer la question de la prévention dans le domaine des troubles du comportement chez l'enfant. Et la prévention a longtemps été le parent pauvre de la santé publique en France. C'est sans doute toujours le parent pauvre de la santé publique en France, même s'il y a davantage de textes qui en parlent. Mais un volet moins connu de la prévention, c'est que la prévention, y compris dans le domaine de la santé, peut être instrumentalisée pour des objectifs différents de ceux de la santé publique, des objectifs à connotation sociale. Et donc on va essayer d'analyser à partir du cas particulier de cette prévention des troubles du comportement chez l'enfant, les difficultés à situer clairement les enjeux. Pour ce faire, donc deux intervenants, Catherine Chmilot qui est épidémiologiste et ensuite Joël Usé qui est pédopsychiatre. Voilà, je vous laisse la parole. Alors oui, petite précision. Les deux interventions devraient durer à peu près entre une heure et 1h30, et nous aurons ensuite un certain temps pour discuter, étant entendu que nous terminons la séance au plus tard à 22h30 pour libérer la salle.
J'en ai un devant moi. Abandonné. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler de la santé publique au service de la santé individuelle, en partant de, en tout cas pour illustrer la question qui a été évoquée juste avant, la prévention précoce des troubles du comportement de l'enfant. Alors, ça, c'est une définition très classique de la santé. Donc, qui inclut le bien-être mental et social, avec des déterminants donc, qui sont à la fois inhérents à ce que sont les personnes elles-mêmes, mais surtout à l'extérieur, c'est-à-dire leur environnement, à la fois leurs conditions socio-économiques, culturelles et environnementales de vie, donc qui inclut les conditions de travail, l'accès à l'eau, l'alimentation, l'éducation, et également donc, tout ce qui concerne les réseaux sociaux et communautaires, c'est la vie en collectivité, et puis ce qui est lié au style de vie personnel. Alors la santé publique, donc, c'est l'étude à l'échelon collectif en fait, de la santé. La santé individuelle, c'est ce qui se passe au niveau d'une personne. Et donc on va voir la santé publique, donc, c'est vraiment étudier dans une population. Les liens entre un phénomène de santé, c'est déterminant. Alors évidemment, la santé publique a plein d'objectifs. Notamment diminuer la morbidité et l'incapacité, donc y ajouter des années de vie. Donc en luttant contre la mort prématurée, en allongeant l'espérance de vie, mais surtout en réduisant les disparités sanitaires entre pays et entre catégories socio-professionnelles. Alors pour atteindre ces objectifs, donc globalement on utilise l'épidémiologie et les actions de santé publique, dont font partie notamment la prévention, enfin dont fait partie la prévention, et le système social et sanitaire dans lequel se trouve la population. Alors, je vous parlais un tout petit peu de l'épidémiologie, donc qui est vraiment l'étude de la ligne dynamique des phénomènes de population, de santé, pardon, dans une population. Alors, pour mettre en évidence les facteurs qui les déterminent, tous ceux qu'on a vus avant, qu'ils soient intrinsèques ou extrinsèques à la personne, ainsi que le rôle de ces facteurs, donc quelle est leur part relative, et pour mettre en place les mesures de correction appropriées. Qu'il s'agisse de prévention ou tout simplement d'action, effectivement, dans un système de santé ou plus généralement dans la société. Alors, l'épidémiologie en santé publique, on se situe là où c'est écrit en rouge. Voilà. Elle essaye de répondre à des questions de santé publique pour analyser une situation et ensuite voir comment est mise en place une décision. Enfin, c'est en tout cas ce qui contribue à prendre des décisions de politique publique. concerne donc la planification, ce qu'on voit, la réglementation, évidemment, le financement de tous ces systèmes pour prendre en charge les questions de santé publique. Alors, plus simplement, l'épidémiologie, on va mesurer, observer, surveiller, décrire. Donc, on va compter, globalement. Formuler des hypothèses, et puis après, on va regarder si ces hypothèses sont justes ou pas, de façon plus ou moins expérimentale. Avec derrière, toujours, l'idée de prévenir ou guérir, sachant qu'il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Alors ça, c'est les types d'enquêtes. Donc les préférées sont celles où la souris manipule l'homme. Si elle pouvait, elle le ferait, je pense. Et puis sinon, donc, plus simplement, celles qui vont nous intéresser, non, sont plus à droite, sont des études descriptives, donc qui permettent de, au moins dans un premier temps, regarder ce qui se passe. Ensuite, on va faire des études étiologiques qui vont commencer à s'intéresser à la relation entre des déterminants et un phénomène de santé. Et enfin, pour essayer d'approcher une relation causale, on peut mettre en place des enquêtes expérimentales, mais bon, comme le dessin vous l'indique, ce n'est pas forcément évident à faire. Et il n'y a guère que dans les essais cliniques randomisés, donc on peut faire ce genre d'expérience. Alors, donc on va essayer de travailler, quand on fait de l'épidémiologie, pour regarder la relation entre une exposition et le fait de devenir malade ou pas. Alors ici, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui peut conduire des personnes à avoir des troubles des conduites, voire à devenir délinquants ? Alors on va mettre en place des études, donc qui peuvent être transversales. On regarde à un moment donné ce qui se passe. Ou alors on regarde dans le temps avant ce qui s'est passé, ou on se place dans une visée prospective, et on va regarder comment les maladies ou les expositions évoluent. Alors pour une étude descriptive, on va plutôt utiliser les études prospectives, enfin les cohortes, en tout cas c'est ce qui marche le mieux. Et les autres, c'était les études étiologiques. Donc globalement, de toute façon, quel que soit le type de l'étude, on va regarder quel est le lien, simplement le lien, c'est-à-dire une relation entre une exposition, un comportement, une maladie. Et donc, on va se reposer la question, qu'est-ce qui peut avoir un lien avec un trouble des conduites, éventuellement avec la délinquance ? Est-ce que les critères de causalité d'une relation entre deux variables, ça essaie de répondre à la question, c'est la poule ou l'œuf en premier ? Et ça, en général, on ne sait pas. Parce que pour qu'on puisse dire que c'est la poule qui donne l'œuf ou l'œuf qui donne la poule, il faut qu'on puisse répondre positivement à toutes ces questions, au moins. Et encore, même là, on n'est pas sûr. C'est-à-dire qu'il y a une association entre les deux variables qui est effectivement cohérente. Ce n'est pas une idée farfelue et par hasard, on trouve quelque chose qui a un lien. L'association est plus ou moins forte. Elle est spécifique. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui donne... plein de choses, ou l'inverse, hein, c'est une chose qui est liée à une autre. Il y a une relation dans le temps, évidemment, c'est après avoir été exposé éventuellement qu'on va être malade, et pas dans l'autre sens. Et puis il y a une plausibilité clinique et biologique quand même, sinon on se demande pourquoi on se pose la question. Et il y a une notion de gradation biologique. Tiens, plus on est exposé, plus on est malade, par exemple. Donc, et tant qu'on n'a pas réuni tous ces critères-là, ce n'est pas une relation causale. En tout cas, on ne peut pas l'affirmer. Et on n'a pas le droit. Enfin, ou alors, ce n'est pas scientifique. Alors, le sujet qui nous rassemble ici, un petit peu la délinquance, hein, qui est pudiquement appelé trouble des conduites, bon, je résume peut-être. Alors, je vais vous donner quelques données que j'ai trouvées. Bon, ça vient du ministère de l'Intérieur. Et de la justice. Bon, il n'y en a pas tellement d'autres. Alors, juste ce qu'on voit, c'est que peut-être, finalement, nos délinquants sont surtout des vieux. Puis alors, moi, je suis inquiète quand je vois ceux qui ont plus de 60 ans. Bon, voilà. Non, c'est juste pour vous dire ce graphique. Donc, à peu près en 15 ans, les profils des personnes condamnées n'ont pas évolué en termes d'âge, en tout cas de classe d'âge. Ici, vous avez les effectifs. Alors, effectivement, ils évoluent. Alors, en épidémiologie, on sait qu'il y a plein de raisons de faire évoluer des effectifs, hein, qui sont indépendantes, enfin, qui qui ne sont pas liées au fait que, effectivement, dans la réalité, les chiffres ont augmenté ou diminué. Ça peut être juste parce qu'on les recueille plus, on les cherche, donc on les trouve, forcément. On a changé les définitions aussi. On ne parle pas de la même chose, donc un coup on compte quelque chose, et puis après on compte d'autres choses avec. Donc évidemment ça augmente, forcément. Voilà, puis ça dépend de ce qu'on veut faire de tout ça. Donc, on ne va pas dire que les statistiques, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais vraiment, il faut savoir ce qu'on compte derrière exactement. Et parce qu'il y a d'autres facteurs, en tout cas dans ce sujet-là, qui peuvent expliquer qu'il y en ait plus. Malgré tout. Alors, si on rapporte ça aux effectifs, donc ça concerne les mineurs donc, de 13 à 18 ans. Donc, c'est à peu près 4 millions en France. D'après les effectifs qu'on a là, donc 5% des mineurs sont concernés effectivement par le vol, etc. Mais parmi ces 5%, il n'y en a que à peu près 1% qui a commis un acte considéré comme grave, ce qui fait 7 mineurs pour 10 000. Et ça, on considère que c'est un événement rare. Et du coup, dans ce cas-là, les types d'études qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour analyser éventuellement les facteurs qui sont liés au fait d'avoir commis un acte grave, sont des études de type 4 témoins, pratiquement uniquement. Les autres modèles d'études ne seront pas forcément très faciles à utiliser. Ce sont les études d'écologie. C'est celles qui nous permettent de donner les chiffres avant, parce que ça sont typiquement c'est des données écologiques. On regarde globalement dans une population ce qui se passe. Les études transversales, ça ne marche pas, mais en général, de toute façon, ça ne marche pas bien pour quelle que soit la question qu'on se pose. Puis les études de cohorte, ça pourrait marcher aussi, mais ça ne colle pas vraiment avec ce qu'on veut. Malgré tout, donc, alors certes, c'est intéressant, une étude 4 témoins, parce qu'on peut étudier un phénomène rare, des expositions et des déterminants qui sont multiples. Et puis, il y a une grande période de latence, donc on peut utiliser ce type d'études. Le problème, c'est qu'il faut des bons témoins pour aller avec les cas, c'est-à-dire des presque cas, enfin, c'est comme ça qu'on les appelle aussi, qui ont autant de probabilités de devenir un cas que les cas eux-mêmes. Compte tenu de ce qu'on étudie, ça ne va peut-être pas être très facile de les trouver. Alors ici, vous avez deux interprétations des motifs éventuels de devenir délinquant. Donc le premier considère que c'est essentiellement lié à des facteurs extrinsèques, c'est-à-dire l'environnement socio-économique, qui joue un rôle clé dans l'éventuel survenu de comportements délinquants. Pour le second, sont les causes individuelles. Donc ça vous reprend ce que je vous ai montré tout au début, avec les causes intrinsèques, et le reste, les causes extrinsèques. Alors, la surface de ces arcs de cercle que je vous ai montré, du petit cercle, sont peut-être quand même en rapport avec la part relative des uns et des autres. On peut voir. Par contre, là, la taille du texte, c'est peut-être pas dans le bon ordre. Alors, c'est pour ça que je vous ai repris une réponse de la première personne interrogée, donc qui considère qu'effectivement, c'est plutôt l'environnement socio-économique qui pourrait être à l'origine, en tout cas, de tels comportements. Et qui dit que, bon, effectivement, on ne peut pas exclure l'idée d'une responsabilité individuelle, mais il ne faut pas omettre la responsabilité collective. Et je vous rappelle ce petit proverbe africain qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant. À partir de là, ce n'est peut-être pas l'enfant qui est responsable. Et donc, je vais venir à cette expertise collective de l'INSERM qui date de 2005. Donc quand même, il y avait 12 experts du sujet qui en ont auditionné 7 autres. Et tous, ils ont travaillé sur à peu près 1 000 d'articles et de documents. Puis je vous ai mis des commentaires. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Enfin si, en fait, il y avait tellement de choses que j'ai choisi celui-là. À propos de l'expertise collective, donc un article de M. Georgiev. Voilà. Que vous connaissez certainement. Moi, je... Malgré tout, il est militaire. Ouais, tout est possible. Alors, les définitions qui sont utilisées, donc ce qui va être en noir, c'est ce qui vient de l'expertise collective. Donc, il y a un trouble des conduites. Voilà, vous lisez, c'est un trouble. Enfin, c'est un, en tout cas, c'est ce qui, c'est comme ça qu'on peut qualifier un comportement dans lequel sont transgressées les règles sociales. Effectivement, c'est quelque chose qui fait intervenir la psychiatrie, les réflexions sociales et judiciaires. Alors, on a deux classifications. Bon, qui explique, on peut dire qu'il y a, alors c'est répétitif, persistant, etc., sur des durées, il y a plein de critères, enfin bon, c'est complexe, mais là je laisserai les psychiatres après, si vous voulez leur poser des questions, ils vous répondront. Puis, donc ça c'est dans l'autre, on ne va pas considérer que c'est faux, hein, ça, quand même, ça c'est bon. L'autre approche, donc là, qui critique en fait, hein, l'expertise collective, hein, rappelle que, bon, alors je parle sous couvert des psychiatres, hein, donc on contredirait s'il faut, vous corrigerez. Donc, à dire qu'on essaye, quand on définit une maladie psychiatrique, on essaye de généraliser des observations. Voilà. Et de rechercher un modèle qui rassemble les symptômes et les traits qui sont observés chez la majorité des personnes concernées par ce trouble éventuellement. Et puis, quand on regarde un cas, une personne, c'est-à-dire quand on la soigne, on la prend en charge, bien là, du coup, de toute façon, il est unique, mais forcément différent et individualisé du modèle. C'est-à-dire, dans le premier cas, on est peut-être sur une démarche de santé publique, typiquement, et dans le deuxième, ben, sur la prise en charge d'une personne voilà, qui a besoin qu'on l'aide. Alors, dans l'expertise collective, l'idée qui a été retenue, donc, c'était de voir comment les études épidémiologiques qui ont été retenues permettent de mettre en évidence des liens entre les troubles des conduites et d'autres facteurs. Alors, là, c'est moi qui pose des questions, mais est-ce qu'on va pouvoir savoir quelle est la cause, quel est l'effet ? C'est toujours le fait la poule, hein. C'est le problème essentiel en épidémiologie qu'on a. Est-ce qu'il n'y a que des troubles des conduites qui sont à considérer ? Est-ce qu'on a, enfin, pourquoi on a choisi tel ou tel autre facteur ? Quelles sont les populations d'études ? Quel est l'âge de ces populations ? Quelles sont leurs conditions de vie ? Éventuellement, les autres troubles psychiatriques qu'ils présentent ? Est-ce que dans aucun des cas, on a des études de causalité ? Donc on va essayer de mettre en relation des choses. Sachez que quand on fait une étude, de toute façon, alors si on considère, dire ce qu'on appelle, on fait une étude avec une marge d'erreur de 5%, de toute façon, on fera 100 observations, il y en aura 5 qui vont dire qu'il y a une relation, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas la réalité. Voilà. Alors là, je vous ai mis les conclusions de l'expertise. Alors, elle fait 400 ou 500 pages. Il y a une synthèse. Elle est longue quand même. Bon, elle est un peu indigeste en plus. Je vous ai juste mis les conclusions, donc les grands chapitres. Alors effectivement, hein, c'est y a pas mal de garçons de 15 ans dans la population générale qui sont concernés par les troubles des conduites. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils sont délinquants. On a vu, hein, c'est 7 pour 1000 quand même. Là, on se rapproche peut-être plus des chiffres. Bon. Enfin, c'est possible. Pourquoi pas ? Évidemment, c'est des personnes qui ont aussi d'autres troubles mentaux. Ouais. Enfin, nous aussi. Hein. Après, le suivi alors, de population d'enfants permet d'étudier les trajectoires de développement mental des symptômes du trouble, pardon, il n'y a pas d'aise, des conduites. Alors, en fait, je vous ai mis juste le résumé, mais quand on regarde... Je ne sais plus où c'est. Alors, effectivement, il y a des conclusions comme « Il est extrêmement rare qu'un enfant qui n'a jamais manifesté de problème d'agression physique avant l'âge de 10 ans commence à présenter ce type de problème par la suite. » Oui, si vous voulez. Bon, ok. Donc, il y a plein de choses comme ça. Bon, ça mais c'est intéressant, hein, parce qu'il y a plein de gens qui ont étudié tout ça. Après, il y a la notion d'héritabilité génétique du trouble des conduites, qui serait proche de 50%. Alors ça, c'est la magie des chiffres, hein. Quand je vois un truc comme ça. Moi, c'est... En même temps, ça pile ou face, 50%. Après, le tempérament et la personnalité peuvent être des facteurs de vulnérabilité vis-à-vis du trouble des conduites. Ben oui. Mais vous aussi, enfin, vous êtes plus ou moins sensible, plus ou moins susceptible, enfin, bref. Après, il y a l'impact de la période périnatale. Ben oui. La thalidomide, c'est pas terrible pendant la grossesse. Effectivement, ça fait des enfants qui n'ont pas de bras. Bon, ben oui. Mais bon, en même temps, bon, je caricature, c'est pas bien. Après, la genèse et la persistance du trouble des conduites sont influencées par les facteurs familiaux et environnementaux. Alors, par contre, ça commence à devenir un peu plus intéressant, en tout cas, de mon point de vue. Parce qu'effectivement, les facteurs socio-économiques sont importants. Après, il y a des déficits neurocognitifs qui sont impliqués dans les troubles des conduites. Ben, en général, quand on a du mal à s'exprimer, et bon, on n'est pas forcément... plus facile à vivre. Enfin, en tout cas, ça peut effectivement donner des violences, mais bon, zut, il en manque un. Puis après, ça, c'est intéressant. Le diagnostic du trouble des conduites nécessite une évaluation rigoureuse plurimodale. Ok. Bon, on ne met pas ça n'importe comment. Alors, je ne sais pas si toutes les études qui ont été faites, hein, qui sont certainement des études très, très solides scientifiquement, ben, si le diagnostic du trouble des conduites a à chaque fois été évalué de façon rigoureuse et plurimodale. Et ça, c'est un problème qu'on a souvent en épidémiologie, c'est la définition. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on va compter? Comment? Enfin, et qu'est-ce qu'on va garder pour l'analyse ou exclure de l'analyse? Alors, psychiatrie, c'est peut-être plus difficile que dans d'autres disciplines. Parce que dire de quelqu'un, il a un cancer ou il n'a pas, en tout cas, diagnostiqué au moment où on parle, où on fait l'étude, bon, on y arrive à peu près. Pour dire quel cancer exactement, depuis combien de temps, ça on a un peu plus de mal, mais on peut y arriver. Bon, un problème psychiatrique, je ne suis pas sûre que ce soit facile. Et puis, on évolue. Donc, enfin, le cancer aussi, mais peut-être que sur toute une vie, en tout cas, tout ça, ce n'est pas forcément facile à appréhender. Voilà. Alors, donc ça, je vous ai résumé un petit peu la façon dont est construite l'analyse du rapport. Effectivement, il y a des troubles dans l'enfance qui sont étudiés. Des troubles à l'adolescence qui peuvent conduire à la délinquance, à la criminalité. Bon, parce que c'est quand même ce qui est sous-tendu dans le rapport tout le temps, en permanence. C'est pas clairement dit, mais ça y est. Donc il y a des troubles des conduites donc, qui vont, à l'âge adulte, donner des comportements beaucoup plus agressifs et répréhensibles. Alors on s'intéresse donc, à tout ce que j'ai évoqué avant. Puis ben, je vous ai mis en tout petit hein, les conditions socio-économiques, parce qu'en fait, ça paraît presque pas. Il est toujours dit, oh, c'est un facteur. Ouais. Enfin, c'est peut-être le principal facteur, à mon sens. Puis du coup, si on considère que tout ça, c'est vraiment très important dans une trajectoire de vie, est-ce que c'est vraiment ça qui détermine l'histoire de vie d'une personne? Alors, ce qui est dit, c'est que ce sont les comportements individuels qui déterminent l'avenir d'un enfant, et qui vont permettre de dire... Quand il a 3 ans, et ben à 25 ans, vous aurez déjà fait 5 ans de prison. Est-ce que c'est vraiment ça? Et puis, bon, pourquoi est-ce qu'on a négligé les conditions socio-économiques de vie? Parce qu'il ne faut pas oublier, le chômage, c'est une nécessité économique. Alors, j'ai mis un point d'interrogation, peut-être rhétorique, mais c'est une réalité. Donc, c'est le système économique dans lequel nous vivons. Qui nécessite qu'il y ait du chômage. Alors du coup, est-ce que ce rapport n'a pas des conclusions abusives? Parce que la psychiatrie, certes, c'est une discipline médicale, mais c'est aussi une approche humaine des humains. C'est quand même une discipline médicale particulière. Est-ce qu'on peut avoir uniquement une position prédictive vis-à-vis de comportements qualifiés de troubles des conduites dans l'enfance. Après, parce que c'est compliqué de prédire quelque chose. Hein. Enfin, je sais pas, il faut peut-être une pitié. Parce qu'on déjà dans le cas d'une pathologie qui n'est pas psychiatrique, c'est difficile. Même si vous avez un cancer, on peut pas vous dire quand est-ce que vous allez mourir. Personne ne le sait. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir prédire l'évolution d'un cas en psychiatrie, alors que les facteurs qui déterminent nos comportements, notre façon de vivre, sont quand même multiples, variés, complexes. Donc, qu'est-ce qu'on a comme capacité prédictive de ces troubles ? À partir, en tout cas, de ce qu'on observe pendant l'enfance. Est-ce que le dépistage de ces troubles est le seul moyen, en fait, de modifier une trajectoire de vie ? Est-ce que ce n'est pas la modification des conditions de vie qui pourrait, elle, modifier notre trajectoire de vie ? Et compte tenu de ces incertitudes, qui sont certes inhérentes à la psychiatrie, qu'est-ce qu'on peut faire ? Enfin, voilà. Est-ce qu'on peut laisser, est-ce qu'on peut conclure comme ça ? Parce que tout récemment, alors je n'ai pas encore lu d'article scientifique vraiment sur le sujet, mais on envisage une origine infectieuse à l'autisme. Donc finalement, ce qu'on observe là, il y a peut-être d'autres causes. Enfin, moi, on n'en sait rien. Alors là, la santé publique, donc je rappelle, hein, c'est une observation au niveau collectif, un phénomène de santé de ses déterminants. Au niveau individuel, bah oui, ça reste l'observation d'un phénomène de santé individuel. Et puis, comme l'exception confirme toujours la règle, ben oui, on va toujours me trouver. Enfin, alors là, vous en allez avoir plein des exemples. Le blouson doré, le jeune qui s'en sort, il vient de la banlieue, mais il s'en sort quand même. Oui, ça reste une exception. Puis globalement, pourquoi on fait ça ? Pour sortir un autre rapport du secrétaire d'État à la justice au président de la République en novembre 2010. Alors, il y a peut-être eu d'autres impacts de l'expertise collective. Alors, en plus, il cite Socrate quand même. Alors, il a peut-être des lettres, hein, je ne sais pas. Alors, ce qu'il dit, les faits se déclinent dans trois champs principaux. Dans les familles, de la toute puissance de certains enfants qui conduit à l'anomie. Okay. Il y a un effet d'éviction des parents dans certaines familles. Et une démission parentale dans d'autres. La création d'une économie intrafamiliale de survie basée sur les trafics. Ah bah oui, quand vous n'avez pas un rond, vous avez quand même cherché un moyen de gagner de l'argent. Enfin, bon, faudrait être fou pour ne pas le faire. Et il y a une crise de notre modèle d'intégration républicaine. Il y a plein d'étrangers en France. À l'école, un constat d'échec unanime quant aux 150 000 mineurs qui sortent chaque année du système scolaire sans formation ni diplôme. Enfin, c'est la faute à qui ? C'est aux enfants, forcément ? Ça doit être ça. Absentéisme et décrochage scolaire qui conduisent à l'émergence d'une catégorie de jeunes sans repères livrés à la rue, devenant des cibles privilégiées pour les délinquances et l'intégrisme religieux. Soit. Et alors, sur la voie publique, le phénomène d'occupation de l'espace public par des bandes, le rajeunissement dans leur composition. Alors, on a vu que tout à l'heure que les délinquants ne sont pas plus jeunes qu'avant. Et apparition de groupes de filles tournées vers la délinquance. Ben oui, mais elles ne travaillent pas toutes non plus, les filles. Hein. Donc, bien qu'elles fassent quelque chose. L'intensification du prosélytisme religieux via les prêcheurs. Bon, c'est un peu connoté hein, quand même comme rapport. En fait, je me rends compte. Encore plus là que quand je l'ai lu. Voilà. Donc, cette approche fait apparaître trois grands chantiers structurants pour la République. Le soutien indispensable à la parentalité, la restauration de la citoyenneté par l'école et sur l'ensemble du territoire de la République, donc qu'ils aillent tous voter, et la mise en œuvre d'une stratégie volontariste de reconquête de l'espace public. Ok. Je vois pas où sont les conditions socio-économiques de vie hein, là-dedans. C'est pas abordé du tout. Attends, je sais plus pourquoi je vous ai mis ça. Ah, si. Alors quand on fait une étude, on s'appuie sur plein de données d'informations. Parce que, bon. Alors la littérature scientifique, hein, c'est ce sur quoi s'est appuyé, se sont appuyés les experts de l'expertise collective de l'INSERM. C'est les travaux qu'ils publient aussi. Enfin voilà, on travaille tous avec ça. Bon, la littérature grise, les rapports d'études, comme l'expertise collective. Puis bon, on a plein d'autres systèmes d'information, de données. Alors, je vous les ai regroupés là. Enfin, les principaux, en tout cas, pour ce qui concerne le champ de la maladie. Vous avez en bas des gens qui sont exposés à plein de choses. Ils ne sont pas encore malades. Après, ils sont malades, mais ils ne savent pas. Après, ils se soignent eux-mêmes parce qu'ils se sont un peu rendus compte qu'ils étaient malades. Bon, puis après, ils finissent par consulter. Puis, ben, des fois, ils meurent. Bon, on regarde, on a plein de systèmes d'information possibles. Et puis là, dans la question qui nous occupe, ben, les systèmes d'information qu'on a, ben, c'est l'école et la police. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Voilà. Alors, ces approches, donc, c'est ce que je vous disais, ne s'appuient que sur la responsabilité individuelle. Alors, est-ce qu'elles répondent vraiment aux questions qu'on se pose ? Est-ce qu'elles apportent une ou plus, enfin, est-ce qu'elles apportent des solutions qui seront vraiment efficaces ? Et finalement, ben, je vous laisse lire. Voilà, je vous remercie.